Chaud. Alors aujourd'hui, la chaleur va persister, elle va même insister avec des températures qui pourraient atteindre les 35 degrés sur Midi-Pyrénées, à Toulouse par exemple, 35 degrés à Limoges ainsi qu'à Clermont-Ferrand, jusqu'à 36 degrés à Bordeaux. D'ailleurs, entre Bordeaux et Dax, là, dans ce secteur de la Gironde et des Landes, nous pourrions atteindre ou dépasser les 38 degrés. Donc aujourd'hui, de la chaleur, mais dans l'après-midi, eh bien les nuages vont commencer à se former sur les Pyrénées. D'autres vont arriver par l'océan. C'est donc une situation qui va tourner à l'orage dans la soirée, à commencer donc par les Pyrénées face à l'Atlantique. Des orages qui, dans la soirée, pourraient être assez soutenus sur l'Aquitaine principalement et qui remonteront la nuit prochaine en direction de la Bretagne.
Merci beaucoup Rémi André. Excellent réveil avec Sud Radio. Vous êtes bien dans le petit matin, il est 5h. Sud
Radio. Parlons.
Et le journal de 5 heures, c'est avec vous Clément Barguin. Bonjour Clément.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
L'horreur et la stupéfaction à Nogent. En Haute-Marne, une surveillante d'un collège a été poignardée à mort par un élève de 3e. L'attaque a eu lieu alors que des gendarmes étaient en train d'effectuer une fouille des sacs des collégiens. On y revient dès le début de ce journal. Les autres titres de l'actualité, Clément.
Interdiction de la vente de couteaux aux mineurs, portique de sécurité, caméras de surveillance. Le gouvernement cherche la parade face à la multiplication des attaques aux couteaux. Les chauffeurs de taxi maintiennent la pression sur le gouvernement. Nouvelle mobilisation d'ampleur aujourd'hui pour dénoncer la réforme du transport sanitaire. Et puis à peine sa suspension annoncée, son retour est déjà prévu. Le dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov redémarrera le 15 septembre.
Elle s'appelait Mélanie. Cette surveillante de 31 ans, mère d'un petit garçon de 4 ans, a succombé hier à ses blessures.
Elle a été poignardée hier matin par un adolescent de 14 ans lors d'un contrôle des sacs par les gendarmes devant le collège Françoise Dolto de Nogent en Haute-Marne. Alors qu'il attendait pour être fouillé, le suspect a sorti un couteau et a porté 4 coups à la victime. Élève de 3e, inconnu des services de police, il n'avait pas d'antécédent judiciaire. Il a été arrêté et placé en garde à vue, Christine Bouillot.
Selon les premiers éléments fournis par la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, le jeune garçon était ce que l'on appelle un référent anti-harcèlement dans son établissement, c'est-à-dire qu'il était volontaire pour mener des actions contre le harcèlement scolaire. Et depuis le début de l'année, cet élève, dont les deux parents travaillent, était calme. Un passage en classe de seconde se profilait et le maire de la commune n'avait jamais eu affaire à lui. Dans son dossier scolaire, pourtant, le rectorat précise qu'il avait été exclu par 2 fois avant novembre dernier pour des perturbations dans les cours, non pas pour des faits de violence. Autant dire que les signaux d'alerte avant-coureur étaient quasi inexistants, en tous les cas, à ce stade de l'enquête.
Les précisions de Christine Bouillot. Une cellule d'écoute psychologique a été mise en place au collège. Les cours ne reprendront pas avant demain.
Et devant l'émoi suscité par la mort de cette surveillante, l'exécutif cherche comment prévenir ces agressions.
Invité du 20h de TF1, François Bayrou promet d'interdire la vente des couteaux aux mineurs. Le Premier ministre qui a rappelé que plus de 6000 contrôles à l'entrée des établissements scolaire avait eu lieu ces 2 derniers mois. 186 couteaux ont été saisis.
Le port d'armes, celui qui détient un couteau dans son sac ou sur lui, ça doit être strictement interdit et ça doit être contrôlé. Ça n'empêchera pas tous les drames. On est en train, vous le savez, sur les sites pornographiques, de proposer ce contrôle de l'âge. Il va être étendu là et que les armes seront des armes de cette nature. Il faudra qu'un adulte signe la réception. L'élargissement de la liste des armes blanches, des couteaux, c'est tout de suite. Et l'imposition que ce soit une vérification d'âge de celui qui reçoit le colis, c'est tout de suite aussi.
François Bayrou, qui s'est également dit favorable à l'expérimentation de portiques de détection d'armes à l'entrée à des établissements scolaires.
Emmanuel Macron lui dénonce un déferlement de violence insensée.
Invité de France 2 hier soir, le chef de l'État a assuré que le gouvernement était mobilisé pour faire reculer le crime. Il appelle à des mesures radicales concernant l'accès des jeunes aux réseaux sociaux.
Moi, je porte l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire, parce que toutes ces plateformes ont la possibilité, par la reconnaissance faciale ou des identifiants, de vérifier l'âge. On sait faire de la reconnaissance faciale. C'est exactement ce qu'on a fait avec la régulation européenne pour réguler les sites pornographiques, pour faire justement une vérification de la majorité. Et donc, on doit interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne. Sinon, je négocierai avec les Européens pour que nous, on commence à le faire en France. On peut pas attendre.
Emmanuel Macron, invité hier soir de France 2.
Un autre drame en milieu scolaire, Clément, une fusillade fait au moins 10 morts dans un lycée de Graz, c'est en Autriche.
Des coups de feu en rafale, des élèves apeurés qui tentent de fuir les lieux. Devenu viral, des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent toute l'ampleur du massacre qui a eu lieu hier. L'auteur de la fusillade qui s'est suicidé serait un ancien élève victime de harcèlement, c'est en tout cas ce qu'il dit dans sa lettre d'adieu. Parmi les victimes figure un élève français de 17 ans.
À Paris, les aéroports d'Orly et Roissy pourraient être bloqués ce matin par les chauffeurs de taxi.
Des blocages avant de converger à Bercy devant le ministère de l'économie. Les chauffeurs de taxi qui dénoncent toujours la réforme du transport sanitaire. Des cortèges se sont organisés un peu partout en France pour rejoindre la capitale, Albin Texera.
Elle a roulé plusieurs heures pour rejoindre Paris. Christine est taxi dans l'arrière-pays niçois depuis 6 ans. Elle redoute les conséquences concrètes de la réforme dans les zones rurales.
C'est les taxis de la ruralité qui sont le plus impactés parce que c'est les plus loin et c'est ceux dont on a le plus besoin au final. Parce qu'il n'y a pas de transport. Parce que l'État n'a mis aucun moyen pour développer les transports en zone rurale.
Pour Sébastien, jeune taxi depuis un an, c'est un combat vital. Il vient de décrocher sa licence et voit déjà son activité menacée.
Moi, je me suis endetté. J'ai une femme, j'ai deux enfants, j'ai un crédit de maison. Objectivement, je pense qu'il faut qu'ils revoient leur copie. Alors, c'est sûr, j'ai choisi de faire ce que je veux faire. Hein. Mais la manière dont ils gèrent, je pense qu'il y a d'autres économies à faire.
Julie, elle, est une patiente atteinte de la mucoviscidose. Elle a fait la route avec son chauffeur de taxi habituel qui l'emmène à ses rendez-vous médicaux.
Je suis pas la seule patiente à me battre avec les taxis. Il faut que les gens prennent conscience. Ils vont faire mourir des milliers et des milliers de taxis, mais ils vont faire aussi mourir des milliers et des milliers de patients.
Environ 30 000 chauffeurs conventionnés pourraient être directement touchés par la réforme.
Le reportage Sud Radio d'Albin Texera. Une réunion doit avoir lieu ce matin au ministère de la Santé pour trouver une issue au conflit.
Suspendu à partir du 1er juillet, le dispositif MaPrimeRénov reprendra finalement le 15 septembre prochain.
La ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, a officialisé cette reprise hier en confirmant que cette pause permettrait d'identifier les dossiers frauduleux. Lancé en 2020, MaPrimeRénov est actuellement doté d'une enveloppe de 3,6 milliards d'euros. Cette suspension en plein été a provoqué un coup dur pour le secteur du bâtiment, déjà en difficulté. Christophe Bélanger est le vice-président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment.
C'est un frein brutal. On conteste cette gestion un petit peu chaotique et ubuesque du dispositif depuis un moment. Si on se remet depuis 2024, on avait dit déjà que cette réforme était mal adaptée avec des arrêts de dossiers. On pense que le gouvernement n'assume pas les coupes budgétaires et le bâtiment naturellement en pâtit. Nous, on veut qu'on puisse faire des monogestes sur un parcours sur 5 ans, par exemple. Et là, ça favoriserait le travail de nos artisans. Et puis ensuite, on coupe prêt un petit peu leur sous-pied des fraudeurs.
Propos recueillis par François-Louis Bourneau pour Sud Radio.
Aux États-Unis, la maire de Los Angeles décrète un couvre-feu dans le centre-ville.
Depuis vendredi, la ville est le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants opposés aux expulsions musclées de sans-papiers. Donald Trump promet de libérer Los Angeles d'une invasion d'ennemis étrangers, ce sont ses mots. Quelques 700 Marines doivent rejoindre les 4000 militaires réservistes de la garde nationale déjà mobilisés par le président américain.
Allez, on termine ce journal avec un petit mot de sport. On connaît désormais l'affiche de la finale du championnat de France de basket.
Double tenant du titre, Monaco l'a emporté hier face à l'ASVEL et rejoint le Paris Basketball en finale. Finale qui aura lieu à partir de dimanche.
Et d'après vous, qui sera le champion de France?
Allez, on va dire Monaco.
Voilà, pour un troisième titre. Alors, bah voilà, merci beaucoup Clément Barguin. On vous retrouve à 6h pour un nouveau journal. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Il est 5h09 sur Sud Radio, excellent réveil à tous. J'ai le plaisir de vous accompagner une nouvelle fois ce matin jusqu'à 7h avant de retrouver Jean-Jacques Bourdin. On commence avec le meilleur de vos émissions dans ce Petit Matin. Dans quelques minutes, le meilleur de Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gonzman qui recevait la représentante de 60 millions de consommateurs pour parler, pour alerter sur les arnaques à la perte de poids. Mais d'abord, un premier extrait, tenez, des meilleurs des vraies voix de Sud Radio avec Philippe David et Cécile de Minibus. C'était hier soir sur Sud Radio. Comme toutes les autres professions, les juges doivent-ils rendre des comptes? Débat.
Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
C'est un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge, je veux entrevoir, c'était comme un mirage.
Ce drame à Paris avec la mort d'Elias, 14 ans, l'adolescent a été poignardé vendredi soir par deux jeunes qui tentaient de lui voler son téléphone portable.
Le ministre de l'Intérieur s'est dit horrifié par cette violence gratuite et cible en particulier un profond sentiment d'impunité et une culture de l'excuse.
Non, laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils.
Son fils est mort, tué à coups de machette en janvier à Paris. La mère d'Elias dénonce l'inaction des juges avant le drame. Les deux agresseurs, qui ne répondaient pas en tout cas aux convocations, faisaient l'objet d'une simple interdiction de regroupement alors qu'ils habitaient dans la même résidence.
Alors parlons vrai, qui est le véritable responsable? Le juge ou l'État qui n'a pas assuré le suivi? Ou les deux? Ou qui d'autre d'ailleurs? Et à cette question, mort d'Elias, comme toutes les autres professions, les juges, doivent-ils rendre des comptes? Vous dites oui à 99%, vous voulez réagir? Audez les vraies voix, attendent vos appels au 0826 300 300.
Et que le 1% nous appelle, bien entendu. Oui. Nous, Philippe Bilger, que vous allez répondre non à cette question.
Au contraire, ma chère Cécile, la question de Sud Radio est très pertinente et bien sûr, je vais répondre oui parce que depuis que je suis magistrat, j'ai toujours considéré que la responsabilité de ceci, même si elle existe, entendons-nous, doit être élargie. Et les autres professions, certes, ont des systèmes de responsabilité, mais je suis pas persuadé que lorsqu'elles commettent des erreurs, elles soient beaucoup plus sanctionnées que les magistrats. Mais peu importe. Mais il reste deux problèmes fondamentaux. D'abord, pour élargir la responsabilité des magistrats au niveau où vous le souhaitez, au regard de votre interrogation, il faudrait changer un système qui fait que la responsabilité du magistrat ne peut pas être mise en cause lorsqu'elle relève d'une pratique judiciaire, même fautive. Parce qu'il y a les voies de recours qui permettent éventuellement de contester une décision de justice. Et deuxièmement, même dans l'affaire tragique d'Elias, il est difficile de déterminer, me semble-t-il, dans le processus qui a abouti au désastre, qui est directement responsable, ou lesquels, parce qu'ils peuvent être plus nombreux, de cette catastrophe et de cette, on peut le dire, de cette grave erreur professionnelle.
Tragique. Virginie Calmels.
Alors d'abord, moi je me félicite que Gérald Darmanin ait ouvert cette enquête et lancé donc cette enquête, parce que c'est vrai que sur beaucoup d'affaires, on a parfois le sentiment de décisions de justice incomprises par la population et un sentiment d'impunité et on passe à autre chose. Là, on a l'impression que pour une fois, on va quand même aller sur cette notion de responsabilité qui me semble cruciale. C'est pas que les juges, c'est toute profession, quelle qu'elle soit, l'idée qu'il n'y a pas de recours possible ou qu'il y a une impunité totale ou que c'est simplement l'appréciation individuelle, c'est quand même perturbant. Et donc on a besoin à un moment donné de se dire, et je crois que le ciment de la démocratie, c'est une justice qui fonctionne bien. En France, on n'a déjà pas de moyens sur la justice, c'est scandaleux, c'est le budget par habitant un des plus faibles. La justice est au dernier rang dans les dépenses de l'État, donc je pense qu'on a besoin de moyens, on a besoin d'efficacité et on a surtout besoin que nous, citoyens, on croit à nouveau à la justice de notre pays. Et pour ça, ça veut dire que comme tout métier, comme toute responsabilité, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des manquements et ils doivent être sanctionnés. Et c'est très important, il me semble, qu'on ait cette commission d'enquête, qu'on ait des recours possibles, qu'on ait des besoins de comprendre pourquoi ça a dysfonctionné, parce que si j'ai bien lu, ces deux jeunes étaient effectivement sous ils avaient la justice des mineurs qui étaient ils devaient rendre des comptes, ils ne l'ont pas fait, il y a eu des manquements mais derrière
un document pas signé,
sans conséquence.
Louis Guérin.
Ah, je vais avoir une voix légèrement dissonante. Évidemment que le temps imparti là, c'est un sujet qui est extraordinairement intéressant, qui mériterait objectivement un débat de plusieurs heures. Là pour le coup, on peut rester jusqu'à demain à 10h, mais pour essayer de synthétiser le propos, il faut faire très très attention. Il est facile de hurler avec la meute et de crier au loup d'une certaine manière, parce que de toute façon, on a gagné d'avance. Mmh. Vous êtes du côté de la victime, et elle a tout lieu d'être soutenue majoritairement, évidemment. La difficulté ici, c'est qu'un juge, quand il a la main tremblante au moment de rendre des décisions...
La mère d'Elias, pardon, je vous coupe, a dit ce matin que justement les juges étaient trop du côté du...
J'ai entendu sur l'interview, et c'est pour ça que je rebondis un peu là-dessus. On peut comprendre la douleur d'une mère, elle a d'ailleurs probablement raison sur un certain nombre de points, mais il faut faire très très attention. Il faut toucher à cela avec beaucoup de parcimonie et beaucoup de subtilité. Pourquoi ? Parce qu'une justice qui fonctionne, c'est avant tout une justice indépendante et sereine. Quand on voit le parquet, pardon pour un ancien représentant du ministère public, mais excellent au demeurant, et qui fait plutôt figure d'exception dans le milieu dans lequel il a pu évoluer, et qui aujourd'hui en particulier ferait figure d'exception. Le problème du parquet, par exemple, qui n'est pas réellement indépendant, n'en déplaise aux représentants du ministère public, et qui donc, à la main tremblante à chaque fois qu'il y a une hystérie du moment, que ce soit sur du MeToo hystérisé ou du harcèlement scolaire, j'en ai vécu quelques exemples il n'y a pas longtemps, eh bien vous avez le ministère public qui est mort de trouille, qui veut absolument appliquer les consignes, et il faut faire du chiffre, il faut faire du chiffre. Et là, pour le coup, on va aller dans l'excès, parce que dans l'excès, on peut rien vous reprocher. On va mettre en garde à vue un enfant de 13 ans, pas grave s'il y a des conséquences, de toute façon, j'aurai jamais à en répondre, pour le coup. Et l'excès sera toujours payé en retour. Et c'est le risque ici. Il est beaucoup plus courageux pour un magistrat de mettre le frein et de dire non, en dépit de ce que les victimes peuvent demander, ou victimes réelles ou supposées, parce que c'est toujours à déterminer, eh bien, je vais prendre soin de prendre ce recul nécessaire, cette sérénité nécessaire pour rendre mon jugement. Je suis pas en train de dire que la justice fonctionne bien en France, je suis persuadé qu'elle ne fonctionne pas bien. Elle fonctionne pas bien parce que, comme on vient de le dire, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Les magistrats étaient jusqu'à peu et encore maintenant sous-payés, et toute la chaîne judiciaire est mal payée, maltraitée, du policier de bas échelon au plus haut gradé. Donc, je suis pas en train de dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de violence en France, que la montée de la violence n'existe pas, ce serait mentir. Mais je dis simplement, attention, réfléchissons. Et j'en terminerai par là, attention aux politiques. Les récupérations politiques sont jamais la bonne solution, de toute façon.
Les débats dans les vraies voix de Sud Radio, tous les soirs à partir de 17h et jusqu'à 19h avec Philippe David et Cécile de Minibus. Vous restez avec nous dans un instant, un extrait du meilleur de Sud Radio Média avec Valérie et Gilles Ganzman, Valérie Expert et Gilles Ganzman. On parlait des arnaques à la perte de poids, c'est à suivre juste après ça.
Écoutez Sud Radio Nantes en DAB+.
Sud Radio.
Cette semaine, écoutez Sud Radio tous les jours entre 7h et 8h pour tenter de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. Choisissez parmi 45 clubs et hôtels situés dans les plus beaux endroits de France. En club, vous profiterez d'équipes aux petits soins, des clubs enfants de 4 mois à 17 ans, des repas où vous n'aurez qu'à mettre les pieds sous la table et des animations pour tous. Bonnes vacances avec Sud Radio. Parlons vrai. Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Et oui, vous êtes bien dans le Petit Matin de Sud Radio avant de retrouver Sud Radio Média. Le rappel des titres. L'horreur et la stupéfaction à Nogent, en Haute-Marne. Une surveillante est décédée hier après avoir été poignardée par un élève de 14 ans lors d'un contrôle des sacs devant un collège. Le gouvernement promet des mesures. François Bayrou envisage l'expérimentation de portiques de détection d'armes dans les établissements scolaires. Emmanuel Macron souhaite, lui, interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Deux jeunes sapeurs-pompiers ont perdu la vie hier à Lens, dans l'Aisne, lors d'une intervention. Le drame s'est produit hier après l'effondrement d'un étage dans un immeuble en flammes. Roissy, Orly, les chauffeurs de taxi de nouveau mobilisés contre la réforme du transport sanitaire. Ils prévoient de bloquer les aéroports parisiens avant de converger vers le ministère de l'économie. Et puis le mercure s'affole avec des pics de chaleur dans certaines villes de France, attendues aujourd'hui notamment jusqu'à 37 degrés dans le sud-ouest. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite le meilleur de Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Ganzman.
Sud Radio Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, on parle consommation, on parle produits interdits et
pâte
autres.
À
pâte à tartiner, oui absolument. Je racontais que j'étais allée dans une fête foraine où il y avait une pâte à tartiner dont on a beaucoup parlé, Elmorgen, qui avait été interdite de vente en France et qui était sur tous les stands de crêpes et de gaufres, ce qui est quand même insensé.
C'est normal, oui.
Parce que c'est interdit à l'importation et c'est en vente libre, c'est en vente libre, oui, sur les crêpes et autres. Donc voilà, un dossier pour vous.
Vous êtes balbarre si vous allez au stand de crêpes et de gaufres au sujet.
Je regarde, je mange avec les yeux. Perdre de 3 à 30 kilos, les nouvelles solutions. Vous évoquez, vous abordez tout ce dont on parle aujourd'hui pour perdre du poids avec... Alors, je vous disais, vous avez
voulu titrer sur du positif, mais il y a aussi les arnaques, les choses qui ne marchent pas. Vous avez, on le disait juste avant, étudié aussi le contenu des box toutes prêtes pour maigrir, où là c'est pas formidable.
On peut peut-être commencer par ça. Est-ce que les box dont on voit les publicités toute l'après-midi sur toutes les chaînes, est-ce que c'est vraiment efficace? Et vous m'avez dit oui, et ça m'a surpris.
Mais oui, c'est efficace sur la perte de poids, puisque on vous impose de manger 1200 à 1800 calories par jour. C'est très inférieur à ce que vous mangez d'habitude. Donc la perte de poids, elle est là. La question, c'est est-ce durable? Parce que toute la question est là. Est-ce durable et est-ce pas trop cher? Bon, alors, sur la durabilité, vous ne réapprenez pas à manger. Donc, toutes les erreurs que vous avez faites le jour où vous arrêtez de manger vos petites boîtes, vous risquez de les refaire. Donc, la perte de poids, elle ne sera pas à long terme. Qu'est-ce qu'on mange? On a noté que parmi les recettes, il y a énormément d'aliments ultra transformés.
C'est pas de la bonne qualité?
La quasi-totalité contiennent beaucoup d'additifs, beaucoup de sel, parfois un petit peu de sucre. Donc, en termes de qualité nutritionnelle, c'est pas top. Le petit déjeuner, c'est du sucre, des glucides, donc ça va pas vous caler.
C'est l'inverse. Quand on lit les médecins, les nutritionnistes que vous interrogez, le petit déjeuner doit être un déjeuner protéiné.
Plutôt protéiné. Effectivement. Donc, la dernière chose, c'est que ça coûte extrêmement cher. On va vous promettre un coût journalier pas très élevé, mais une fois que vous êtes engagé, il faut vous engager minimum sur un mois. C'est difficile de se rétracter. Bref, ça va coûter très cher pour une perte de poids qui risque de ne pas être durable.
Sauf si vous restez abonné. En fait, on peut imaginer que dans la tête des concepteurs, il y a le fait qu'on devienne accro, en fait, si je vous suis bien. Parce que moi, si je reprends du poids et je me dis qu'avec les box, j'avais perdu du poids, je vais de nouveau me remettre au box en disant c'est l'alimentation qu'il me faut.
Oui, néanmoins, est-ce une alimentation durable? On parlait des aliments ultra transformés, c'est quand même la porte ouverte vers les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc., quand on en consomme trop. Et puis, ça vous isole du reste de votre famille. C'est-à-dire que pendant que vous mangez votre petite box de pâtes carbonara allégée, il faut quand même cuisiner pour vos enfants, eux vont manger autre chose.
C'est la même chose.
Et puis, un rapport qualité-prix qui est pas évident. Quoi.
Ah non, pas du tout. Certaines collations sont d'ailleurs à rajouter au prix de base de la box.
C'est incroyable.
Voilà, vous rajoutez vos fruits et vos légumes qui ne sont pas inclus.
Et White Watchers, c'est la même chose?
Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de plat.
White Watchers, c'est une forme d'éducation.
Vous achetez vos produits individuellement. Là, ce que me dit un auditeur...
Vous en avez plein au supermarché, Valérie, des produits White Watchers.
Bah oui, mais vous achetez une lasagne, le lendemain, vous ne l'achetez pas. Ce que me dit un auditeur, le prix est forcément pas indiqué, le prix total du contrat, qui peut être entre 2000 et 4000 euros, sans pouvoir dénoncer le contrat.
Exactement.
C'est que vous êtes engagé sur la durée.
Y compris dans la durée d'essai, la période d'essai, attention.
Alors, un autre auditeur me dit, tout simplement, pour maigrir, il faut dépenser plus de calories que l'on en ingurgite, il faut faire du sport, marche rapide, course à pied, vélo, moi c'est ce que je fais, pas besoin de régime payant. Alors, je suis d'accord avec ce que nous dit Gilles, notre auditeur, mais en même temps, c'est pas si facile que ça de maigrir quand même.
Effectivement.
Et de se mettre au sport quand on n'en a jamais fait ou quand on
Déjà, quand on est en surpoids ou en obésité, faire du sport, ça peut être douloureux, donc il faut être accompagné par, parce qu'on peut avoir mal aux articulations, etc. On peut être mal à l'aise, par exemple, pour aller faire des longueurs de piscine, parce qu'on n'a pas envie d'être en maillot à la piscine. Et puis, il y a des freins. Faut savoir que nous on s'adresse vraiment à des gens qui aussi sont en situation d'obésité ou de surpoids depuis plusieurs décennies.
C'est ça.
Pourquoi est-ce qu'on est en surpoids ou en obésité? On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de freins psychologiques, des raisons qu'il faut aller soigner. Et qui, une fois qu'elles sont soignées, aideront à au moins maintenir le poids, puisque l'Organisation Mondiale de la Santé, en termes de surpoids et d'obésité, elle dit pas de maigrir. Au départ, elle dit de maintenir, de ne plus grossir.
C'est ça.
Voilà. Ça, c'est déjà la première victoire, ne plus grossir. Et là encore, ça paraît évident pour des personnes qui ont, allez, en léger surpoids ou qui de temps en temps font le yo-yo, mais pour des personnes qui sont en surpoids ancrées depuis des années ou en obésité, arrêter de grossir, c'est déjà une énorme victoire, et ça, c'est à saluer.
Et dans la publication, il y a une chose qui m'a surpris, c'est, vous remettez pas en cause, mais disons que l'IMC n'est pas aussi important qu'on puisse l'imaginer. L'IMC, c'est le rapport poids-taille.
Voilà, c'est le poids sur la taille au carré. C'est pas suffisant, ça donne une petite indication quand même. Voilà, quand on est au-dessus de 30, on est en situation d'obésité. En dessous, on est en surpoids entre 27 et 30. C'est une indication.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h. Benjamin Glaise.
Il est à 5h25 sur Sud Radio, le meilleur de Sud Radio Média. Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gansman qui seront de retour tout à l'heure à partir de 10h. Leur invité aujourd'hui, ce sera Emmanuel Kessler qui est président directeur général de LCP. LCP qui remplace C8 désormais sur le canal 8. Allez, Sud Radio, il est 5h25. Les anniversaires du jour, les personnalités qui sont nées un 11 juin, des politiques ce matin. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu fête ses 39 ans, anniversaire également de l'ancien député européen et syndicaliste José Bové, qu'on avait découvert, souvenez-vous, en 1999 lors du démontage du McDonald's de Millau.
Et on attaque aujourd'hui à McDo, c'est parce que McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans.
Mais oui, il a 72 ans aujourd'hui, José Bové. Il y a pas mal de sportifs également dans les anniversaires du jour. L'ancien sprinteur Christophe Lemaître, pardon, je m'étouffe, qui fête ses 35 ans. Anniversaire du cycliste Julien Alaphilippe, 33 ans. Et puis un ancien pilote de Formule 1 est né lui aussi en 11 juin. C'est Jean Alési. Alési qui a tant inspiré les guignols de l'info.
Formule 1, dimanche le Grand Prix de Monaco. Aujourd'hui encore, les pilotes reconnaissaient le circuit. Alors Jean, un circuit très sinueux, c'est ça?
Oui, mais très bien.
Mais il y a des endroits plus risqués que d'autres?
Bon ben, logiquement, le plus technique, c'est l'épingle de la Rascasse. Vous savez où il y a le restaurant qui s'appelle la Rascasse?
Oui.
Bon ben, celui-là, je le sens bien. Au premier tour, j'arrive à fond, à fond, à fond, à fond. Et là, hop, je sors.
Oula, vous êtes sûr que c'est pas un peu risqué?
Ben non, j'ai réservé. Je leur ai dit 14h15 maximum, je suis là.
Ben oui, les guignols de l'info qui se sont tant moqués de Jean Alési. Et pourtant, quel palmarès, hein. 13 saisons en Formule 1, 32 podiums en Grand Prix, dont une victoire sur Ferrari au Canada. Jean Alési qui a 61 ans aujourd'hui. Allez, on termine avec les personnes qui nous ont quittés. Jacques-Yves Cousteau, qui était né en 11 juin. Et puis, une chanteuse qui nous avait quittés, elle, ce jour-là, c'est Françoise Hardy.
Françoise Hardy s'est donc éteinte à l'âge de 80 ans et c'est son fils Thomas Dutronc qui l'a annoncé. Françoise Hardy, une légende des années yéyé qui aura si bien chanté l'amour et la mélancolie. Depuis ce matin, nous sommes nombreux à entonner ses chansons sans trop savoir comment lui dire adieu.
Ouais, Françoise Hardy qui nous a quittés il y a tout pile un an, le 11 juin 2024.
Sous aucun prétexte, je ne réflexe malheureux, il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
Petit medley assuré par John à la réalisation de cette émission dans l'ordre. Comment te dire adieu, le temps de l'amour, tous les garçons et les filles. Effectivement, Françoise Hardy qui nous avait quitté il y a tout pile un an, c'était le 11 juin 2024.
Sud Radio Cahors.
105.
Sud Radio. La météo Sud Radio.
Allez, on passe à la météo avec vous, Rémi André. Encore une belle journée au programme avec des températures qui s'envolent. Bonjour Rémi.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Et bien aujourd'hui, nous sommes encore sous le soleil, du soleil qui va dominer aujourd'hui. Alors, nous avons toujours ces petits nuages, on va dire, près de la Manche. Mais aujourd'hui, cela va se dissiper, ce qui permettra aux températures de remonter, par exemple à Cherbourg, jusqu'à atteindre les 20 à 21 degrés. À Lille, aujourd'hui, nous pourrions atteindre les 24 degrés. Vous voyez, c'est déjà 2 à 3 degrés. 23 degrés de mieux qu'hier. À Brest, on va dépasser les 25 degrés, il pourrait y faire 28 degrés car sur cette façade ouest, il va faire chaud. Alors, aujourd'hui, la chaleur va persister, elle va même insister avec des températures qui pourraient atteindre les 35 degrés sur Midi-Pyrénées, à Toulouse par exemple, 35 degrés à Limoges, ainsi qu'à Clermont-Ferrand, jusqu'à 36 degrés à Bordeaux. D'ailleurs, entre Bordeaux et Dax, là, dans ce secteur de la Gironde et des Landes, nous pourrions atteindre ou dépasser les 38 degrés. Donc, aujourd'hui, de la chaleur, mais dans l'après-midi, eh bien, les nuages vont commencer à se former sur les Pyrénées. D'autres vont arriver par l'océan. C'est donc une situation qui va tourner à l'orage dans la soirée, à commencer donc par les Pyrénées, face à l'Atlantique, des orages qui, dans la soirée, pourraient être assez soutenus sur l'Aquitaine, principalement, et qui remonteront la nuit prochaine en direction de la Bretagne.
Merci beaucoup, Rémi André. Je vous souhaite un très bon réveil, un très bon début de journée avec Sud Radio. Vous êtes bien dans le petit matin, il est 5h30.
Parlons vrai.
Dans quelques instants, la revue de presse de Maxime Troulon. On aura aussi la vérité en face avec Jean-François Aquili. Comment prendre soin de sa santé sans ordonnance? Mais d'abord, les infos avec vous, Jeanne Biard. Bonjour.
Bonjour à tous. Réaction immédiate après le meurtre d'une surveillante à Nogent-sur-Marne. Le président et le premier ministre ont annoncé des projets de mesures pour lutter contre ce type de violence. Parmi elles, des restrictions supplémentaires sur la vente d'armes blanches en ligne, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans ou encore des portiques de détection d'armes à l'entrée des établissements scolaires. Le collégien de 14 ans interpellé juste après les faits est toujours en garde à vue. Les établissements scolaires frappés par les drames aujourd'hui, 11 personnes sont mortes après une fusillade dans un lycée en Autriche. Parmi les victimes figure un adolescent français de 17 ans. L'assaillant s'est donné la mort. Âgé de 21 ans, il était un ancien élève du lycée. Plusieurs personnes sont grièvement blessées. Pénalité pour les entreprises, sensibilisation des consommateurs, limitation de la publicité. Le Sénat valide à l'unanimité la proposition de loi contre l'ultra fast fashion. En ligne de mire des enseignes comme le géant chinois Shein, qui produit jusqu'à 25 fois plus de vêtements que les enseignes traditionnelles de fast fashion. Des conditions insalubres. La coalition de la flottille de la liberté dénonce les conditions de détention des membres du Madeleine, toujours détenus par Israël après leur arrestation dans les eaux internationales au large de Gaza. 8 personnes sont toujours détenues, dont la députée européenne LFI Rima Hassan. Le médecin Baptiste André a lui atterri ce mardi soir sur le sol français. Pas de retour à la retraite à 62 ans pour le MEDEF alors que la fin du conclave approche. Le syndicat patronal a affirmé son souhait de maintenir l'âge de départ à 64 ans, conformément à la dernière réforme. Il propose en revanche de travailler sur l'usure professionnelle et l'impact de la maternité sur les carrières des femmes. La dernière réunion entre les syndicats est prévue mardi prochain, sans la FO, la CGT et l'UDP qui ont quitté les débats. Et puis en basket, ce sera donc Paris-Monaco. On connaît le tableau final d'élite. Les Monégasques ont repris le dessus sur Villeurbanne à quelques secondes de la fin et signent donc leur troisième victoire des demi-finales. Score 91 à 88. Le match 1 de la finale se tiendra dimanche à Paris. Bon début de journée à tous.
Merci beaucoup, Jeanne Biard.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Il est 5h32, c'est l'heure de Maxime Troulot. Bonjour Maxime.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Bah oui, c'est votre heure, c'est la revue de presse, avec tous les journaux qui sont là devant vous. On commence par la mort de cette surveillante à Nogent, en Haute-Marne, la France sous le choc, c'est le titre du Figaro.
Oui, la scène qui s'est déroulée à quelques mètres seulement de gendarmes venus procéder alors à un contrôle des sacs. Très rapidement, ils ont interpellé donc le collégien qui a légèrement blessé l'un d'eux à la main, raconte le Figaro. Deux inconnus majeurs encore ce matin. D'une part, le profil de cet adolescent qui fera l'objet d'une expertise psychiatrique. Et puis de l'autre, ses motivations, son geste était-il prémédité ou non? En tout cas, les circonstances restent floues pour l'heure. D'après les informations du Figaro, bien, il n'y a aucun lien formel entre les contrôles de ses sacs et l'attaque au couteau. Elisabeth Borne a précisé que l'adolescent avait fait l'objet de deux mesures d'exclusion après avoir perturbé sa classe au début de l'année scolaire. On parle notamment d'un coup de poing sur un élève et l'étranglement sur un second. En tout cas, le choc, c'est le mot qui revient dans la presse ce matin, le choc en une de la Voix du Nord, la sidération pour Libération, horreur et émotion, titre ce matin l'Est républicain. Cette question en une du bien public, comment enrayer ce fléau? Peut-être qu'Emmanuel Macron aura la réponse. En tout cas, le chef de l'État est dans le piège de l'insécurité. Que faire et comment en parler? se pose la question, l'opinion ce matin.
Et on vous pose cette question sur le compte Twitter de Sud Radio. Emmanuel Macron qui promet désormais qu'un jeune de 15 ans ne pourra plus acheter un couteau sur Internet. Mais est-ce vraiment applicable? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, ça donne quoi, Maxime?
C'est presque 100 à 0. 97%, vous n'y croyez pas. Sur notre compte Twitter, vous êtes seulement 3% à avoir voté oui.
On poursuit le choc également à la une de l'Union. Cette fois, on parle de la mort de deux pompiers en exercice qui émeut la ville de Laon.
Exactement. Le département et les soldats du feu de la France entière sont en deuil ce matin, nous dit le journal, après la mort de ces deux sapeurs-pompiers volontaires de 22 et 23 ans. Le feu a pris à une vitesse impressionnante, raconte une voisine de cette habitation dans les colonnes de l'Union. C'est comme un énorme mikado de plancher et de poutres avec de nombreux gravats, explique le directeur du SDIS, ces gravats qui se sont donc effondrés sur ces deux sapeurs-pompiers. Hier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est rendu sur place. Il a rendu hommage à ces soldats du feu. Il promet un hommage national, d'ailleurs, dont la date reste à établir.
Dans la presse également, souvenez-vous, la semaine dernière à Paris, le mémorial de la Shoah et trois synagogues avaient été détériorées avec des jets de peinture verte. Eh bien, la Russie est de nouveau derrière tout ça. C'est ce qui affirme en tout cas le Canard enchaîné.
Exactement. Dans la nuit du 30 au 31 mai, cinq lieux symboles de la communauté juive à Paris, le mémorial de la Shoah, plus trois synagogues et un restaurant avaient été badigeonnés de peinture verte, référence au drapeau palestinien. Et bien la tentative de déstabilisation a été orchestrée par Moscou. Elle a été même accompagnée d'une campagne numérique autour d'un faux article du Point, publié avec ce titre « Macron surfe sur la vague de l'antisémitisme » et relayé par des comptes russes, notamment sur les réseaux sociaux. Toujours d'après le Canard, d'ailleurs, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure est désormais aux trousses de Kafke et Trouba, les deux commanditaires supposés de l'opération Peinture Verte, membres présumés des services russes. L'enquête a permis en 4 jours, d'ailleurs, d'identifier les 5 membres du commando. Ils sont tous serbes. Ils ont été arrêtés. Ils pourraient, avoir 5 ans de prison, une peine de 20 ans de prison, pardon. 20 ans de prison et 300 000 euros d'amende, nous dit le Canard ce matin.
Cette information maintenant dans le Parisien aujourd'hui en France, comment le premier confinement a détraqué notre cerveau?
Oui, c'est une étude révélée par le Parisien aujourd'hui en France qui est partie du constat connu sur les répercussions durables qu'a eu ce premier confinement, notamment sur le suicide des tentatives de suicide chez les jeunes filles. Eh bien, le but de ces nouveaux travaux, raconte le journal, était de d'établir au bout du compte pourquoi un confinement pouvait entraîner une hausse du taux de suicide. Eh bien, les chercheurs ont trouvé une association entre l'ambiance émotionnelle négative et des modifications du fonctionnement cérébral, deux régions du cerveau connues pour empêcher une personne de se sentir hors de danger, entre autres, raconte le journal, ont été activées lors de cette période. Ainsi, ces nouveaux résultats suggèrent que le stress psychologique du confinement lié au Covid a engagé les mêmes mécanismes neurobiologiques que ces deux régions généralement associées aux événements post-traumatiques ont été activées. Cette étude comporte tout de même des limites, nuance le journal.
Dans le Parisien aujourd'hui en France, on termine cette revue de presse avec le Paris Saint-Germain qui va quitter son antre du Parc des Princes. Alors c'est pas pour tout de suite, mais le club de la capitale a restreint son choix pour implanter son futur stade. C'est dans l'équipe, il n'y a plus que deux options, c'est
exactement
ça sur la table.
Exactement, Poissy dans les Yvelines et Massy en Essonne, communication officielle du club qui éteint donc le feuilleton. Il y avait plusieurs autres possibilités, notamment Saint-Quentin en Yvelines, Ris-Orangis ou Aulnay-sous-Bois. Une candidature notamment du côté de Poissy, crédibilisée ces derniers temps par le lobbying des politiques locaux, dont Carl Olive, ancien maire de la commune et député Ensemble. D'ailleurs, il sera notre invité
Valérie
tout à l'heure.
Pécresse aussi.
7h10, exactement. Bon, effectivement, le stade du PSG, le futur stade du PSG, c'est pas pour demain. Un stade qui pourrait compter entre 60 000 et 90 000 places contre les 45 000 actuelles du Parc des Princes.
Maxime, je balance, vous appréciez le Paris Saint-Germain?
Oui.
Voilà, on peut
le
dire comme ça. Vous avez une préférence
Je ne sais pas trop, mais c'est vrai que beaucoup de supporters du PSG s'interrogent sur le fait que ces stades sont quand même à 15 et 24 kilomètres du centre-ville.
Ça fait trois quarts d'heure, quoi. Au moins, ce que je regardais.
Alors, il y a pas mal de transports en commun, effectivement, mais il faudra y aller pour les supporters du PSG.
Il faudra du courage. Merci beaucoup, Maxime Trouleau. Il est 5h39. Tout de suite, le meilleur de la vérité en face. C'était hier matin. Tenez avec Jean-François Aquili.
Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili.
Allez, avec notre invité, Olivier Van Kemmel, la santé sans ordonnance. Nous parlons donc santé sur Sud Radio ce matin dans la vérité en face. Bonjour Olivier Van Kemmel.
Bonjour.
Alors vous êtes chirurgien urologue,
oui.
Cancérologue, forcément les deux sont liés.
Oui, hein, oui.
Mais vous êtes aussi chroniqueur radio, télé, vous avez une chaîne YouTube.
Oui, j'ai une chaîne YouTube.
Et cartonne.
Ça marche pas mal, il y a plus de 120 000 abonnés.
Mmh. Et vous publiez ce livre donc aux éditions du Rocher, La santé sans ordonnance, comprendre les lois du corps humain pour transformer sa vie. Je vous fais un aveu. Quand on m'a dit tu vas chroniquer ça avec notre invité, je me suis demandé si c'était un bouquin, un énième bouquin sur, vous savez, sur les médecines parallèles, les choses un peu étranges qui nous rebutent un peu parfois. En fait, pas du tout. Votre livre, permettez-moi de vous le dire, Olivier, docteur Van Kemmel, est passionnant. Parce que c'est un livre extrêmement utile, de prise de conscience, assez couteau suisse, si je puis dire.
Ouais.
C'est quasiment un livre de recettes. On va en parler, on va rentrer dedans, on va ouvrir les pages. Hein. Accessible à tous pour mieux appréhender notre corps, améliorer si possible notre forme, notre santé au quotidien. Je sais pas si je l'ai bien résumé.
Oui, oui.
Ouais. Parce que vous êtes sportif aussi. Hein.
Oui, bah, la valeur de l'exemple, c'est sympa. Et puis je mesure aussi la portée de tout ce que j'ai écrit. C'est le fruit de 25 ans de travail, d'expérience. Et en fait, moi, je me définis plus comme quelqu'un qui fait du sport et qui encourage et qui a coaché à un moment donné sa vie des plus jeunes. Je me définis plus comme ça que comme un médecin, un chirurgien. Mmh. Voilà, le métier de chirurgien, de médecin, c'est un métier...
Que vous exercez à Lille.
Toujours, oui, toujours.
À Lille, oui.
Et donc voilà, une consultation, c'est une pièce de théâtre, c'est une relation particulière avec une personne, avec une famille. Et on me suis bien rendu compte que si on demande aux patients... entre guillemets, par la force de nos connaissances, finalement de nous obéir en répétant des recommandations que tout le monde connaît, ben finalement, les patients, ils ont quand même leur souci de la vie de tous les jours, et au final, ils risquent de désobéir. Et c'est jamais très sympa de désobéir. Par contre, et c'est l'âme, c'est la philosophie du livre, c'est de permettre aux personnes, aux patients, aux gens... de comprendre le pourquoi.
Pourquoi, alors c'est comprendre son propre corps.
Et quand on a compris, excusez-moi, j'aime beaucoup cette phrase que je répète à l'envi, c'est qu'on peut pas décomprendre. C'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire.
Comprendre donc, quoi au juste
comprendre, mesurer. Alors, je vais vous faire un parallèle. Vous avez un accident grave sur la route. Et il y a une forte probabilité qu'on va vous prendre la voiture, le permis, et puis vous allez au garage. Enfin, la voiture va aller au garage. Vous avez une maladie qui peut être un cancer, qui peut être une maladie auto-immune, qui peut être une maladie chronique. Vous avez un accident de la vie. Alors, on va à l'hôpital, on va donc au garage, on va voir le docteur, les praticiens de santé, donc on va voir les garagistes. On va pas à l'auto-école. Donc moi, mon bouquin, si vous voulez, c'est un livre, c'est un code de la route, c'est l'auto-école de la santé. On a une chance extraordinaire qui parfois est une pas de bol, on va dire, c'est que nous naissons pour la plupart d'entre nous en bonne santé. Et cette santé dont on souhaite tous les ans au premier de l'an, bonne année, bonne santé, on n'a pas vraiment beaucoup, on n'a pas souvent l'opportunité d'en mesurer l'importance.
Vous voulez dire quoi? Que nous négligeons notre santé?
Tout va vite. Donc on peut pas là aussi dire aux gens, bah écoutez, ça fait 10 ans que je vous le répète, faut avoir de l'activité physique, faites attention à ce que vous mangez, etc. Bien évidemment, ces choses-là sont importantes, mais tout l'enjeu, c'est dans le partage de la connaissance pour que les personnes aient la connaissance et la possibilité de mesurer. Et à un moment donné, eh bien, il y en a un, il va dire, bon bah là, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Maintenant, je vais avoir de l'activité physique, par exemple. Je vais faire attention à ce que je mange. Je vais faire ceci, cela. Parce que obéir, c'est pas possible, si vous voulez.
Vous pratiquez quel sport, au juste?
Alors moi, je pratique un sport collectif. Ça, j'aime beaucoup. Mais bon, le sport individuel, quand on voit le judo en France, c'est un sport collectif aussi. Quand on les voit en finale olympique, bon. Donc moi, mon sport, c'est le hockey sur gazon.
Hockey sur gazon, c'est particulier quand même. Hein.
Oui. Alors, c'est un sport dont beaucoup de gens qui ne le connaissent pas disent qu'il est violent, c'est pas vrai. Et en nombre de licenciés, c'est le troisième sport au monde en termes de licenciés.
Troisième.
Après le foot et le basket.
Ouais. D'accord.
C'est un sport anglo-saxon, c'est un sport extrêmement féminin aussi dans beaucoup de pays, voilà.
Chirurgien, urologue, hockeyeur sur gazon, je précise, votre livre est un... Alors c'est très pratique, c'est très technique, mais grand public. Hein. Par exemple, vous n'êtes pas dogmatique, pas du tout. Hein. Vous donnez des conseils. Quel genre de conseils? L'exemple.
Quel genre de conseil en fait, surtout, j'explique les conseils.
Oui.
Voilà. Ok. Moi, je suis urologue, donc je vais vous dire quelque chose qui en urologie est extrêmement fréquent. C'est toutes ces dames jeunes ou moins jeunes qui ont des infections urinaires, par exemple. Il y a un discours d'urologue qui est d'encourager la consommation d'eau, de boire, parce que dans tous les livres de médecine, le premier traitement préventif et curatif de l'infection urinaire, c'est boire.
Et oui, le meilleur de la vérité en face avec Jean-François Aquili qui reviendra tout à l'heure à partir de 9h sur ce drame, cette surveillante tuée à Nogent et cette question pour le débat 9h30, 10h. La réponse est-elle sécuritaire face au couteau? Ce sera donc le sujet qui sera développé tout à l'heure dans la vérité en face. Dans quelques instants, le meilleur des vraies voix. Un nouvel extrait avec Philippe David et Cécile de Minibus. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio. Nice 97.9 et en DAB+.
Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio.
Bonjour, c'est Philippe David. Vendredi 13 juin à 17h, les vraies voix de Sud Radio vous donnent rendez-vous en direct du Game Fair à La Motte-Beuvron, dans le Loir-et-Cher, le plus grand salon de la chasse et de la nature en France. Retrouvez-nous sur le stand de la Fédération Nationale des Chasseurs. À vendredi.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Il est 6h moins le quart sur Sud Radio, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Le Petit Matin. Dans un instant, le meilleur des vraies voix, mais d'abord le rappel des titres. Et tout d'abord, l'horreur et la stupéfaction à Nogent, en Haute-Marne. Une surveillante est décédée hier après avoir été poignardée par un élève de 14 ans. Le gouvernement promet des mesures. François Bayrou envisage l'expérimentation de portiques de détection d'armes dans les établissements scolaires. Emmanuel Macron souhaite, lui, interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Deux jeunes sapeurs-pompiers ont perdu la vie hier à Laon, dans l'Aisne. Lors d'une intervention, le drame s'est produit après l'effondrement d'un étage dans un immeuble en flammes. Roissy, Orly, les chauffeurs de taxi de nouveau mobilisés contre la réforme du transport sanitaire. Elle prévoit de bloquer les aéroports parisiens avant de converger vers le ministère de l'économie. Et puis le mercure s'affole aujourd'hui avec des pics de chaleur attendus dans certaines villes de France, jusqu'à 37 degrés dans le sud-ouest du pays. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, le meilleur des vraies voix de Sud Radio avec Philippe David et Cécile de Minibus.
Les vraies voix Sud Radio.
Et donc, elle est arrivée en bateau. Greta Thunberg a été renvoyée en avion par Israël. Les 12 personnes à bord du Madeleine entendaient briser le blocus israélien de Gaza. 5 Français, dont Rima Hassan, ont refusé leur expulsion dans l'attente d'un jugement après l'interception du navire.
Alors, parlons vrai. Est-ce que, vu l'impossibilité de jouer les martyrs, ce coup de com' est un échec? Et à la question, la flottille de la liberté, c'est pour vous? Eh bien, vous dites à 91% une mascarade et à 9% utile. Vous voulez réagir? Le 0826-300-300.
Philippe Bilger, on est en train de se demander si finalement, est-ce que en tant qu'eurodéputé, est-ce que ça va dans le sens de son mandat finalement?
On a dit tout à l'heure qu'il fallait penser de l'intervention présidentielle alors que on lui reproche une forme d'abstention dans l'affaire Boualem-Sansal. Mais si je pouvais avoir le moindre doute sur le caractère grotesque de cette équipée, je pourrais me réfugier derrière l'avis autorisé de Françoise de Gouard qui hier, en tant que socialiste patentée, a tout de même démoli cette exposition d'une manière tout à fait intelligente et accablante. Et moi-même, m'abritant derrière cet avis socialiste, je peux dire que c'est une mascarade, paradoxalement, précisément parce qu'elle s'est équipée, rend ridicule en réalité cette tragédie internationale où meurent des deux côtés des gens, des enfants, pas de la même manière. Je ne ferai jamais une assimilation entre la barbarie du 7 octobre et la légitime défense d'Israël qui peut-être dure trop longtemps. Ça. Et je trouve que la musique qu'a choisi Maxime est très révélatrice du caractère en définitive ridicule de cette équipée et surtout qui met au plus bas les deux organisatrices, si j'ose dire, principales.
Virginie Calmez.
Oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Philippe Bilger. Bon, d'abord c'est de la communication dans tout ce que ça a de plus déplorable. Je veux dire, c'est
mais depuis plusieurs jours, c'était il y a des drones, mais ils étaient dans les eaux grecques.
Ouais, non mais bon, cette utilisation malsaine de ce conflit, en voulant absolument d'ailleurs, et c'est vraiment le cas de la France insoumise depuis des mois et des mois, instrumentaliser, souffler sur les braises, tout ça est très très malsain, très dangereux à terme, très grave, parce qu'on oublie de dire qu'on a encore des otages, on a encore, je veux dire, le problème d'Israël, parce que Israël est très décrié, mais on n'entend plus tellement le fait qu'il y a encore des otages, que le Hamas libère les otages. Et après, on verra. Et ça, je trouve que ça y est, on s'est un peu habitué, on n'en parle plus vraiment. Donc, bon, puis moi, le spectacle de Greta Thunberg, bon, moi, je n'ai jamais adhéré à ses prises de position. Je la trouve en plus instrumentalisée. Tout ça donne un...
Enfin, maintenant, elle est majeure. Hein. À l'époque, on pouvait dire qu'elle était instrumentalisée quand elle disait que le climat, machin truc, mais là, maintenant, elle est majeure.
Non, mais bon, tout ça, c'est du business, une autre forme de business. Moi, je ne vois pas d'intérêt général derrière ça. Je vois du petit clientélisme de bas échelle. Voilà.
Loïc Guérin.
Moi, si j'ai voulu faire un mauvais jeu de mots sur Greta, elle est à voile et à moteur, maintenant.
Ah, excellent.
Ou à voile et à réacteur, en avion.
Ou à réaction. Ce qui par-delà le jeu de mots... synthétise un petit peu toute l'hypocrisie du système. C'est-à-dire, j'y vais à voile pour montrer que je lis l'écologie avec une forme d'extrême gauche assez assumée, si ce n'est même plus grave encore. Et au retour, bah, tout va bien finalement. À la fois, l'avion n'est pas un problème, et puis l'asile, d'une certaine manière, en France, va bien finalement. Ce pays qu'on chie en général assez facilement et qu'on critique assez facilement, bah, il y trouve finalement un bon port, si je puis dire. En revanche, je m'inquiète sur les sommes qui ont été débloqués pour rapatrier la jeune demoiselle et qui va assumer le prix du billet
et les coûts assumés. Et qui a financé le bateau aussi? Ça pose quand même
question.
On lit la presse internationale.
En revanche, le bateau n'est pas l'argent public. Ce qui m'intéresse plus, moi, c'est l'argent public parce que c'est une partie de nos impôts et nos charges.
Du Hamas, quand même. Hein.
Mm-hmm. On est aussi d'accord.
Ça pose quand même un peu question, même si c'est pas notre argent.
Et par-delà, c'est un coup de com', mais d'un coup de com' qui était fait aux frais à la fois du justiciable et d'autres individus peu recommandables.
Et oui, le meilleur des vraies voix de Sud Radio avec Philippe David et Cécile de Minibus que vous retrouverez cet après-midi à partir de 17h en direct sur Sud Radio. Nous, en ce qui nous concerne, on continue de se réveiller en douceur avec notre lefto du jour que j'accueille tout de suite. Et ce matin, nous prenons la direction de l'Ardèche. Nous sommes à Vanosque avec une agricultrice, chef d'exploitation, Alexane Dorléac. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes éleveuse de chèvres, productrice d'un fromage, le Caillé Doux de Saint-Félicien. Comment allez-vous déjà ce matin, en forme?
Eh ben écoutez, ça va très bien. Merci beaucoup de m'interviewer et de mettre en lumière le travail d'agriculteur, d'éleveur et puis le Caillé Doux de Saint-Félicien, qui est un super fromage emblématique du Nord Ardèche.
Oui.
Là actuellement, je suis dans ma fromagerie. Et je démarre ma journée du coup par le soin sur mes fromages avant d'aller à la traite d'ici quelques instants.
La traite, oui, c'est alors pour les vaches en général, c'est 6h, 6h30. Pour les chèvres, c'est à peu près la même chose? C'est ce que vous faites aussi?
Ça dépend en fait.
Ça, dépend.
Ça c'est l'éleveur un peu qui choisit. Ce qui est important, c'est l'écart entre la traite du matin et la traite du soir, où il faut minimum 10 heures, c'est le mieux, voire 12 heures, c'est encore mieux. D'accord. Pour bien avoir du lait le matin et le soir.
Ouais. Éleveuse de chèvres rustiques, c'est quoi exactement comme type de chèvre que vous avez, Alexandre?
Alors, moi, j'ai essentiellement des chèvres de race Massif Central et des chèvres du Rove. C'est les deux races principales qu'on peut trouver dans mon troupeau. Et donc, elles sont plus rustiques, c'est-à-dire qu'elles résistent très bien aux changements de variations de température, au parasitisme. Oui. Elles sont moins fragiles, en fait.
Oui, pardon. Non, allez-y, Alexandre, je vous ai coupé, allez-y.
Non, mais elles me font un peu moins de lait. Par contre, on peut pas tout avoir, mais vu que elles sont pas, c'est pas des Formule 1 super méga performantes, je récupère ce côté plus rustique et plus résiliente. Donc, avec le changement climatique qui arrive, c'est plutôt intéressant de travailler avec ces chèvres-là, malgré des fois le manque de production qui peut être un peu frustrant, puisque du coup, faut que je choisisse un peu plus ce que je fais en fromagerie. Voilà, je peux pas faire autant de fromage. fromage que ce que je voudrais, vu que je suis un peu plus limitée en volume.
Voilà. Alors, on va parler de ce fromage, hein, le cahier doux de Saint-Félicien, mais d'abord, en un mot, c'est un lait aussi, alors voilà, moins de lait, mais c'est un lait de qualité, plus riche, c'est ça?
Oui, alors le lait des autres races de chèvres est aussi de bonne qualité. En revanche, quand on a moins de lait, en général, on a un lait donc plus gras et avec plus de caséine. Les caséines, c'est les protéines qui vont nous donner, après caillage du lait, le fromage. Mmh. Donc, c'est les protéines qui nous intéressent pour la transformation.
Qui sont nécessaires pour la transformation. Alexandre, parlez-nous alors de ce fromage caillé doux de Saint-Félicien. C'est quel type de fromage exactement?
Alors, le cahier doux de Saint-Félicien, c'est un fromage, donc un pur chèvre, de la famille des pâtes molles. Donc, la famille des pâtes molles, pour qu'on comprenne, c'est la même grande famille que le brie ou les camemberts. Voilà, c'est pour planter le décor. Et donc, c'est un fromage qui n'aura pas les mêmes caractéristiques, le même goût, mais c'est un peu, voilà, dans les fromages, il y a plusieurs familles. Et les pâtes molles, c'est ce genre de fromage-là.
Les fromages
ça veut
les
dire
crues.
Que... Ouais. Oui, voilà. Donc, moi, je travaille que en lait cru, tout à fait. Mais ça veut dire qu'en fait, la particularité de ce fromage, c'est qu'on va travailler une seule traite à la fois. Souvent, en tout cas dans mon cas, c'est la traite du matin. Et je vais la mettre tout de suite après la traite. Je vais mettre ce lait en transformation et je vais le faire cailler à chaud. Ça veut dire que je travaille mon lait autour de 29-30 degrés. Et je vais utiliser plus de présure, mettre un petit peu de ferment lactique quand même, donc des petites bactéries qui sont très sympathiques, qui nous permettent de travailler le lait, d'avoir un bon goût, une bonne texture pendant l'affinage après.
D'accord. Voilà. Combien de temps et du donc, coup pour faire un cahier doux de Saint-Félicien? Ça vous prend combien de temps pour la transformation?
Alors, pour la transformation, en gros, à partir du moment où je récupère mon lait après la traite, je le mets en chauffe, je rajoute ma présure, mes petits ferments, et une heure après, je peux décailler le lait, ça veut dire que je tranche en fait, le lait en fait, il a coagulé, donc je peux le trancher en cubes de deux par deux, et je vais un peu brasser, le laisser tranquille pendant une heure, et donc je peux mouler environ deux heures et demie après en présurage. Et ensuite, les fromages, ils restent en moule sur la table. Et je vais procéder au démoulage le soir même. Vu qu'on a un cahier beaucoup plus élastique que quand on fait d'autres types de fromages, il va avoir tendance en fait à s'affaisser et à prendre une forme de palais, mais aplati. Et ensuite, il faut compter entre 10-12 jours d'affinage pour avoir une pâte bien moelleuse, voire crémeuse, et un goût assez caractéristique, qui a du caractère, mais qui reste très doux, en fait. On a moins ce côté chèvre, des fois, que certaines personnes peuvent craindre. Là, on est sur un fromage qui a quand même du caractère, mais qui va pas être fort, qui va être très doux. Voilà, donc ça peut plaire à des palais
qui sont peut-être moins habitués ou voilà qui ont plus de mal avec les fromages aux chèvres. En tout cas, ça donne envie. Pour toute façon, pour goûter votre cahier doux de Saint-Félicien, vous êtes notamment vendé en direct depuis votre ferme à Vanosque, c'est dans l'Ardèche. Alexandre Dorléac, un grand merci d'avoir été avec nous ce
merci
matin
à vous.
Sur Sud Radio.
Super.
Passez une belle journée puis bonne traite tout à l'heure. Allez,
merci vous aussi. Au revoir.
Il est 5h57 dans un instant après l'horoscope, la météo et les infos.
Dans un instant, le Petit Matin Sud Radio avec Benjamin Glaise est de retour. Sud Radio Figeac.
103.8.
Sud Radio. Wow.
Quand on a un problème d'espace, on peut vider son téléphone, vider ses placards, sa maison ou remplir le Mini Countryman. Taillé pour les grands espaces, la vie de famille et aussi taillé pour votre budget. Le Mini Countryman électrique finition Blackyard est disponible dès 340 euros par mois. Il vous attend les 14 et 15 juin durant les journées portes ouvertes Mini. LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer de 340 euros après bonus écologique de 2000 euros déduits jusqu'au 30 juin 2025. Conditions sur mini.fr. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
L'horoscope Sud Radio.
Bonjour Bénédicte.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 juin. Bélier, n'abusez pas de votre autorité sur votre entourage et n'acceptez pas des responsabilités qui peuvent se retourner contre vous. Taureau, aujourd'hui vos bonnes idées vous poussent à des projets constructifs que vous pourrez partager dans votre vie amicale. Gémeaux, Une journée intense en émotions, vous rencontrez des conflits affectifs et vous n'avez pas d'autre choix que de céder. Cancer, entre une mélancolie diffuse et une rage de vivre, vous alternez tant bien que mal. Tournez-vous vers l'avenir. Lion, votre ténacité sera payante. C'est donc le bon jour pour foncer en toute confiance et saisir toutes les occasions pour exprimer vos bonnes idées. Vierge, les discussions de la veille vous ont soulagé. Leur suite est positive, poursuivez votre route. Balance, votre partenaire vous sera reconnaissant de penser évolution plutôt que règlement de compte ou rancune tenace. Scorpion, sachez vous ménager quelques moments de détente afin de vous regonfler l'esprit et collecter les bonnes idées. Sagittaire, la pleine lune vous offre la possibilité d'aimer à votre guise. C'est un joli cadeau que l'on vous fait. Vous êtes ravis. Capricorne, d'humeur déterminée, vous allez étonner votre entourage. Fiez-vous à vos ressentis et sortez résolument de vos limites. Verseau, vous aurez de quoi vous réjouir si vous restez